L'Atlas reverdissait, et des paysans algériens fauchaient déjà leur herbe en montagne. C'était le début du printemps à Tibirine, et il s'en dégageait, pour la première fois peut-être depuis 4 ans, un timide parfum de renaissance. Je sens, aujourd'hui encore, l'odeur poivrée des eucalyptus et, plus marquante encore dans mon souvenir, celle résineuse des conifères. Je revois le verger avec ses pommiers et pruniers bientôt en fleurs, mais aussi les tilleuls et les figuiers qui dégringolaient la pente en contrebas du monastère. J'entends le concert féerique dont les oiseaux nous gratifiaient dès l'aube à l'oraison. Certains d'entre eux construisaient des nids suspendus, si nombreux que les arbres semblaient parfois chargés de fruits. Dans les forêts des collines environnantes, les coups de feu s'étaient comme mis en sourdine pour laisser s'épanouir peu à peu une nature flamboyante. En cette fin du mois de mars 1996, les neiges de février avaient fondu, et nous ressentions depuis quelques semaines un minuscule début d'accalmie dans cette Algérie secouée par la guerre civile. Les accrochages entre ceux que nous appelions « frères de la plaine », les militaires, et « frères de la montagne », les maquisards islamistes, par souci de ne prendre le parti d'aucun d'entre eux, afin de les amener à se réconcilier, se faisaient plus sporadiques. S'il y avait encore eu des tués, début mars, près de Tibirine, où des villageois vivaient dans la peur, les attentats paraissaient un peu moins nombreux que d'habitude à travers le pays. Pourquoi ? Je l'ignore. Mais notre communauté monastique retrouvait là un peu de l'oxygène qui lui avait fait défaut les mois précédents. Il restait, bien sûr, toujours aussi difficile de s'approvisionner sur le marché de Médéa, où les produits essentiels, comme la farine, venaient à manquer. Et quand nous regardions le massif de Tamesguida, il était impossible de ne pas remarquer ces taches noires au milieu de la verdure, laissées par les incendies que l'armée allumait dans l'épaisse végétation de chênes verts, pour empêcher les insurgés de s'y cacher. Elle nous rappelait que le calme demeurait précaire. L'éclaircie, pourtant, se confirmait bel et bien, et l'un d'entre nous devait s'en réjouir particulièrement, frère Luc. Médecin de formation, il s'occupait du dispensaire et avait parfois été contraint, à son grand désespoir, d'interrompre les soins aux habitants faute de médicaments. Mais le 11 mars, miracle! Notre infortuné compagnon avait reçu plusieurs colis expédiés 2 mois plus tôt du Maine-et-Loire par l'abbaye de Bellefontaine, amie de Tibirine. 3 moines de Tibirine provenaient, à l'origine, de cette abbaye. Père Bruno, Père Célestin et Frère Michel. L'ancien abbé de Bellefontaine, le Père Étienne Baudry, a toujours entretenu de liens très étroits avec Notre-Dame de l'Atlas. Les véhicules circulaient un peu mieux sur les routes encombrées de barrages, souvent constituées de simples troncs d'arbres. Aussi notre prieur, Christian de Chergé, décida-t-il avec d'autres d'organiser, après 3 ans d'interruption, une nouvelle réunion du Ribat El Salam. Ce « lien de la paix » très fraternel permettait d'échanger avec quelques mystiques musulmans soufis de Médéa, issus de la confrérie Alaouia, basée à Mostaganem. La confrérie soufie Alaouia a été fondée en 1909 à Mostaganem, Algérie, par le cheikh Ahmad ibn Mustafa al-Alaoui. Ce mouvement musulman non prosélyte, qui regroupe aujourd'hui des dizaines de milliers d'adeptes à travers le monde, incarne, aux côtés d'autres confréries soufies, la voie spirituelle de l'islam au service d'une paix tant intérieure qu'extérieure. Au-delà des habituels clivages religieux ou sociaux, l'association internationale soufie Alaouia se donne pour projet de concourir humblement à l'avènement d'une fraternité universelle authentique. Le cheikh algérien Khaled Bentounes est aujourd'hui son chef spirituel. Leur responsable, cheikh, leur interdisant toujours de se rendre à notre prieuré pour des raisons de sécurité, la reprise du ribat allait se faire avec ses seuls participants chrétiens, des religieuses et des prêtres. Le mardi 26 mars 1996, une dizaine de personnes étaient arrivées d'Alger, de Constantine et d'Oran, dont Thierry Becker, le vicaire général de Mgr Pierre Claverie, évêque d'Oran. À cette époque, et en raison notamment de ma charge de commissionnaire, je n'étais pas impliqué dans la préparation du ribat, qui était surtout l'affaire de Père Christian, de Frère Christophe et de Frère Michel. Je ne saurais donc témoigner de ce qui s'y est dit ou de ce qui devait s'y dire. D'autant que, ce jour-là, nous avions dû descendre à Alger dans notre vieille quatrelle avec Père Amédée pour y accomplir des formalités administratives et pour ramener Frère Paul de l'aéroport. Il rentrait de sa Haute-Savoie natale, où il était allé prendre du repos et visiter sa mère souffrante. Paul nous revenait les bras chargés de victuailles, mais aussi de plants d'arbustes et de pelles qui devaient servir au jardin communautaire, des parcelles que nous partagions avec nos voisins et amis musulmans, sous la responsabilité de Frère Christophe. Ce fut une joie de retrouver Frère Paul au caractère toujours jovial, et un réconfort de voir la communauté ainsi reconstituée en ces temps troublés. En début de soirée, la ferveur n'en fut que plus grande à la chapelle du monastère. Cette joie se mêlait toutefois de sentiments contradictoires que personne n'osait véritablement exprimer. Une tension se lisait par moments sur le visage de Frère Paul. Quitter de nouveau les siens l'avait quelque peu éprouvé, car il savait le climat de danger régnant en Algérie. N'avait-il pas déclaré à ses proches avant de partir « Ces pelles, je les emporte avec moi pour creuser nos tombes. » Chacun tentait de conjurer le mauvais sort et de dominer sa peur comme il le pouvait. Tout le monde avait conscience que Frère Paul se retrouvait, à l'image de nous tous, exposé de nouveau aux incertitudes de la guerre civile. Mais ce soir-là, il n'était nullement question de se laisser envahir par de mauvaises pensées et de gâcher le bonheur des retrouvailles. Les uns et les autres reprirent vite leur place pour retourner à leurs occupations habituelles. Dieu ne pouvait attendre. Moi-même, il me fallait accomplir mon travail de portier. Après le repas servi au réfectoire et passé l'office de compli à 20 heures, je suis allé, comme chaque jour, fermer le portail de la propriété. Puis, j'ai rejoint le bâtiment de la porterie pour me coucher sans tarder. Tous les matins, les moines doivent se lever à 3h15 pour le premier office de vigile. Pourtant, cette nuit-là, ce n'est pas le tintement de la cloche du monastère qui m'a tiré du sommeil. Le bruit inhabituel d'une conversation devant le portail, à une dizaine de mètres de ma chambre, parvenait à mes oreilles. En regardant ma montre, j'ai vu qu'il n'était pas encore le moment de se rendre à la chapelle. Le cadran affichait 1h du matin. Que se passait-il? J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de Frère de la Montagne qui avait besoin de consulter Frère Luc. Son dispensaire se trouvait juste à côté. Il était arrivé, les mois précédents, que certains d'entre eux se présentent ainsi pour se faire soigner en début de soirée. Sauf un jour où ils avaient débarqué en plein après-midi, stationnant leur voiture près de l'école en dessous de notre propriété. Tout en songeant à cette éventualité, je remarquais, et ce fait me parut étrange, que la conversation continuait dehors, sans que qui que ce soit ne frappe au portail pour que je vienne lui ouvrir. Sans éclairer ma lampe, j'ai bondi de mon lit pour aller à ma fenêtre. Elle donnait sur le mur d'enceinte du monastère, qui était pourvu d'une petite porte en métal. Quand j'ai soulevé un coin du rideau, j'ai aperçu, à une quinzaine de mètres, une personne se faufiler par cette ouverture. Malgré l'obscurité, je pouvais distinguer un homme en turban, portant une arme en bandoulière, probablement une Kalachnikov. Cet individu a semblé se diriger vers ceux qui parlaient devant le portail, à la droite de ma fenêtre, et que je ne pouvais voir de là où j'étais. Après avoir longé la porterie, le même homme est, par la suite, entré au rez-de-chaussée du monastère, là où dormait Frère Luc. Je n'étais pas très rassuré, je me sentais mal à l'aise. Je me suis agenouillé à côté de mon lit pour prier et pour demander au Seigneur de nous protéger. Il s'est alors passé quelque chose que je n'avais jamais raconté.